Après 300 mètres, vous avez atteint votre destination sur la gauche.
Showcase. À la rencontre de Spleen l'Ancien.
Vous avez atteint votre destination sur la gauche.
Je suis chez un garçon qui habite seul sans sa maman dans un très bel appartement. Nous ne sommes pas rue Sarrazade à Paris, mais à Caen. À la rencontre d'Hervé Gissot. Bonjour Hervé.
Bonjour Fabien.
Hervé, connu aussi sous le nom de Spleen l'Ancien.
Tout à fait.
Petite précision ou petite indication sur...
Sur le pseudo.
Ouais.
Pseudo que j'ai choisi en 2006. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le monde du slam. Avant, je viens plutôt du monde de la chanson. Et puis, j'ai découvert le monde du slam. Je ne suis pas un slameur, je me désigne comme slamiste plutôt. Je viens plutôt effectivement de la chanson, mais tout à coup je me suis rendu compte qu'on pouvait employer du texte ici, là et ailleurs, avec de la spontanéité, du partage, tout ça. Donc ça a été quand même une révélation pour moi à un moment. Alors le pseudo spleen, ben le spleen c'est la mélancolie, certainement un tempérament un peu mélancolique, et puis spleen, d'abord très joli mot, spleen, l'ancien, je suis pas toute première jaunisse, donc je me suis dit que ça sonnait bien, et ça continue de sonner de mieux en mieux, puisque je prends chaque jour un peu plus le temps.
Dans la tronche.
Dans la tronche.
Alors c'est un homme de lettres, un homme lettré, un homme de mots qu'on visite aujourd'hui. Merci de nous accueillir en tout cas chez toi.
Pas de problème.
Parce que c'est le principe de Showcase, c'est de venir un petit peu découvrir le vrai univers des artistes de la Normandie, dont tu fais partie bien évidemment puisqu'on est à Caen. Donc on est dans un appartement dans Caen, c'est une architecture un peu spéciale. On a des fenêtres en forme un peu de V là sur le...
Dans comme l'avant d'un bateau.
Ouais, on est dans ton salon et il y a cette espèce de baie vitrée qui pointe vers le clocher d'une église, mais je pourrais pas dire laquelle.
C'est l'abbaye aux Dames, je crois.
Voilà. Donc on a l'abbaye aux Dames juste en face.
C'est explosé sud-ouest.
C'est ça. Voilà, beaucoup de jeux de mots, hein, vous en apercevrez tout au long de cette interview. Il y aura des petits clins d'œil comme ça régulièrement, parce que je vous avoue que je connais un petit peu le bonhomme. Mais bon, à moi aussi, à lui, de faire en sorte que vous le découvriez au travers de cette émission. Alors dans ce salon, je vois... c'est assez épuré dans l'ensemble, mais il y a quand même quelques petites touches. Et ces petites touches-là, justement, le fait que ce soit épuré, on les remarque tout de suite. On voit un miroir en mosaïque, on voit une vieille édition de Don Quichotte chez Hachette. Mais je ne sais pas de quand elle date, celle-là.
Oh, c'est bien vieux, hein, c'est début 20e.
Et le Don Quichotte en question, il a une résonance particulière dans ton histoire.
Oui, c'est un beau livre que je regardais quand j'étais gamin. Il y a des illustrations qui sont très belles. L'histoire est résumée le plus possible. Je l'ai relu l'autre jour. Et puis le héros Don Quichotte, cette espèce de type un peu fou qui va au bout d'un rêve complètement délirant, mais en tout cas il y va. Bon, il morfle comme tous ceux qui rêvent, il morfle comme Spartacus, parce que voilà, il y en a qui dérangent l'ordre établi, et voilà, c'est cette image de chevalier errant, ça m'interpellait.
Ah, ça t'interpellait, pourquoi c'est au passé?
Non, parce que j'évoque l'enfance là.
Oui.
Voilà, il y avait ça et ça me plaisait.
Et le fait de l'avoir relu là, il n'y a pas si longtemps, est-ce que ça t'interpelle toujours ou en tout cas peut-être d'une manière différente ?
D'une manière différente, forcément. Parce que ce type-là portait un rêve, comme moi je porte, j'essaie de porter la poésie. Donc on se confronte, on se prend des beignes éventuellement. Donc bon, sa fin est un peu quand même un peu triste puisqu'il s'aperçoit qu'il a été fou. Peut-être qu'en faisant de la poésie, on s'aperçoit qu'on est un peu fou de faire ça parce que les interstices sont rares, les espaces où on peut vraiment s'exprimer dans de bonnes conditions sont rares. Voilà, donc c'est toujours la question de durer, de faire tenir des choses, de voir quelle importance on y met et si ça en vaut la peine.
Dans le monde d'aujourd'hui, la poésie, elle a encore sa place ?
Elle a des places, on en parle beaucoup, poésie, 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 on en parle beaucoup, on dit que c'est essentiel. Dans notre société occidentale, j'en suis pas si sûr, et dans d'autres sociétés c'est pas conseillé, sinon on se fait pendre. Voilà, j'avais écrit un texte là-dessus sur un poète iranien qui avait le malheur de faire de la poésie, et il a fini par être pendu. Ici, je pense que beaucoup de gens sont gavés de beaucoup de choses pour écouter de la poésie, pour la recevoir. Bah, faut de la disponibilité dans la tête. Voilà, faut avoir une certaine forme de liberté pour écouter ça et de curiosité. Donc, je pense que c'est pas les vertus premières aujourd'hui de notre société occidentale.
Hervé Gisseau et le lien à la poésie, le lien à l'écriture, c'est une histoire qui date pas d'hier.
Non, on va pas dire depuis combien de temps, mais depuis que je suis ado. Voilà, ça a été une sorte de béquille qui m'a certainement sauvé la vie. Et puis on s'aperçoit au fil du temps que c'est un vrai travail qui demande effectivement de la liberté, qui demande de se créer des espaces, d'être à l'affût. C'est-à-dire que dès qu'il y a une idée, faut la choper au vol. Et puis pas se contenter du premier jet. Il y a des premiers jets qui sont merveilleux, puis il y a des premiers jets qui demandent du travail.
En disant que ça date pas d'hier, ta carrière, sans vouloir vous offenser, cher monsieur, ne date pas d'hier non plus, parce qu'il y a un passif quand même. Tu parlais du slam en 2006, mais encore avant ça, il y a eu de la production musicale.
Oui. Alors je sais pas si c'est un passif ou un passé.
Ou un passé, voilà.
Il y a eu de la chanson quand j'ai démarré. J'ai démarré tout seul en gratouillant, puis je me suis entouré de musiciens. J'ai eu une carrière, si on veut, entre guillemets, on va mettre beaucoup de guillemets à ça, en gros de 80 à 90, accompagné généralement par trois musiciens sur scène. J'ai fait une évolution en cours de route, puisqu'au début... je dirais que seul m'importait le texte, et puis je me suis aperçu que la musique existait. Donc il ne suffisait pas de faire cling-clang à la guitare, qu'il fallait être un peu plus ambitieux là-dessus, puis que les mots ont leur musique à dire. Voilà, donc 80-90, de la chanson. Après ça, parce que la vie des fois est un peu complexe, je suis resté 15 ans dans un désert scénique, mais pas artistique. J'ai continué d'écrire, j'ai jamais cessé d'écrire. J'ai fait un retour chanson 2004-2005. Je me suis un peu cassé la figure parce que l'époque avait changé, parce qu'il y avait de nouveaux médias, de nouvelles façons de communiquer. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon voilà, c'est cuit, c'est râpé, tu vas écrire des petites chansons dans ton coin, puis t'en liras une de temps en temps à tes potes. Et puis c'est là que j'ai découvert le milieu du slam. Donc je viens du temps du vinyle, j'ai fait un 33 tours vinyle en 1983, j'ai fait une cassette. Maintenant quand je dis que j'ai fait une cassette, ça fait rigoler, ça te fait sourire aussi. Et puis il y a eu des recueils de poésie, et puis en 2010 j'ai rencontré un musicien, compositeur, touche à tout au niveau musical, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. En duo d'abord, et puis aussi on a fait pas mal, 4 années en quartet. Mais bon, quartet c'est un smirmorque, faut le porter. C'est dans les contrées normandes, un peu prudentes ou qui manquent d'ambition, c'est vraiment difficile de se produire sur scène. Quand j'ai démarré la chanson, je faisais 25 ou 30 concerts dans l'année. Maintenant, quand on fait 5, 6, 7, et ben t'es bien content, quoi.
On a l'impression... Alors, la formation dont tu parles, c'est Spleen... 3, 4. La formation dont tu parles, c'est Spleen l'Ancien & Co. Qui a justement deux albums à son actif.
Spleen l'Ancien & Co, en quartet, il y a un seul album qui s'appelle Le Plein d'Aisance.
Est-ce que c'est difficile, enfin, il semble qu'il soit difficile de vendre, comme tu le disais, un quartet comme ça, parce que les gens qui écoutent pour la première fois l'album pensent que c'est du slam, ou enfin, ils ont du mal à catégoriser un petit peu l'ambiance musicale, ils se disent, a priori, ouais, ça m'a l'air d'être compliqué de programmer ça chez moi.
Oh, je sais pas, je crois pas. C'est pas. Enfin, c'est pas. J'ai l'impression que ce disque n'est pas un disque de slam. On va dire que les textes sont dits, sont incarnés, interprétés. On n'est pas dans le spoken word. On est dans quelque chose qui est proche de la chanson dans la forme. Voilà. Enfin, c'est pas très loin de la chanson. Bon, l'intérêt du slam, c'est que moi, ça m'a permis des fois d'écrire de façon plus spontanée, de pas être toujours dans la rime, pas toujours dans le format chanson. Mais non, j'ai pas tellement entendu ça. Je crois pas. Non. C'est plutôt que les programmateurs préfèrent aller chercher des groupes ou des spectacles d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça, je l'ai entendu dire, on veut pas de gens locaux, comme s'il n'y avait pas de talent ici. Moi, je côtoie pas mal d'artistes, je trouve qu'il y a beaucoup de gens très talentueux et qui mériteraient de jouer aussi dans la région. Ben, je veux bien aller jouer à Montélimar, mais il y a plein d'endroits dans lesquels je ne suis pas allé, dans la Manche, dans l'Orne ou ailleurs, donc... Voilà, mais une certaine, bon, c'est l'esprit un peu normand peut-être, manque d'audace.
On continue un peu la visite de ton appartement, on regarde un petit peu ce qu'il y a autour, je vois beaucoup de disques et pas beaucoup de livres.
Les livres sont dans ma chambre.
D'accord. Quel est ton livre de chevet actuellement ?
Je sais pas si j'ai un livre de chevet, je dirais que je suis plutôt dans la lecture de... Beaucoup de mal actuellement à lire des livres, et je suis plutôt dans la lecture de journaux qui traitent de l'actualité. Je me farcis pas mal d'actualité, j'ai peut-être tort parce que c'est pas très joyeux, mais j'ai besoin d'avoir un regard sur le monde. Oh, bah pour, si je dois citer un livre, je vais dire Bukowski.
Bukowski, un titre en particulier ?
Bukowski, c'est de la nouvelle, ça peut être de la poésie. Tu veux que je te lise quelque chose ?
Par exemple, oui, voilà. ça nous donne une petite idée, et puis alors, on invitera les auditeurs à s'y intéresser, du coup.
Ouais. Alors, ce qui est drôle chez Bukowski, c'est que c'est toujours, ça paraît toujours très, très, très sombre, et puis de temps en temps, il y a un bijou, et celui-là, c'en est un, ça m'est arrivé de le faire sur scène. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, reste là, je ne veux pas qu'on te voie. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je verse du whisky dessus et tire une bouffée d'une cigarette. Et les putains, et les barmen, et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là. Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop coriace pour lui. Je lui dis, tiens-toi tranquille, tu veux me fourrer dans le pétrin ? Tu veux foutre en l'air mon boulot ? Tu veux faire chuter les ventes de mes livres en Europe ? Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir, mais je suis trop malin. Je ne le laisse sortir que de temps en temps la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là, alors ne sois pas... triste. Puis je le remets, mais il chante un peu là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir, et on dort ensemble comme ça, liés par notre pacte secret. Et c'est assez beau pour faire pleurer. Mais je ne pleure pas. Et vous ?
Est-ce qu'on a perdu la façon de dire la poésie ? Parce que quand tu lis un texte, quand on t'entend citer Bukowski de cette manière, y a plein de personnes qui s'y casseraient la gueule sur le ton, sur la manière de marquer des pauses, dans certaines phrases. Est-ce qu'on a perdu ? Est-ce qu'on sait encore lire la poésie de nos jours ?
Bah, je pense qu'il y a des gens qui savent. Et puis, faut travailler. C'est une question de souffle, de poser les mots, de créer des pauses, de pour ce qui me concerne, de pas être dans la grandiloquence. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont toujours su le faire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on le lise le plus simplement possible. Je pense que les textes se suffisent à eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'en faire des tonnes pour émouvoir le Pékin qui écoute. Voilà.
Mesdames et messieurs, les Pékins qui nous écoutaient.
Bonjour.
Bonjour. On va faire. Alors, j'aperçois aussi des guitares. Il y a une guitare classique, mais avec un dispositif électrique à l'intérieur. Enfin, bon, je sais pas.
Électro-acoustique.
Électro-acoustique. Voilà.
Ouais, aujourd'hui, elle est plus électro, enfin plutôt acoustique qu'électro.
Ouais. Ouais. Et puis, on a une guitare lélé juste à côté. Mmh. Alors une guitalélé, c'est pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est.
Eh ben, on va dire que c'est un ukulélé et une guitare qu'on aurait couché ensemble. Et puis, qu'on crée, voilà, c'est une guitalélé, c'est entre le ukulélé et la guitare. L'intérêt, c'est que ça a 6 cordes. Alors que le ukulélé n'en a que 4, et donc quand tu joues du ukulélé, il faut revoir tout le système d'accords. Ça faisait longtemps que j'étais attiré par le ukulélé, mais comme je suis un peu paresseux, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est sympa. Donc c'est plus aigu que la guitare, c'est un son un peu différent. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'emporter partout en voyage, c'est assez petit.
C'est une guitare miniature, finalement.
C'est une guitare miniature, ouais. Alors le manche est un peu plus étroit, j'ai des gros doigts, mais bon, on peut. C'est toujours une bonne compagne ou un bon compagnon.
On en écoute un petit bout.
Ok.
Tu nous joues un truc ?
Je vais essayer. Tu sais qu'un jour, sans bagage et aussi sans retour, dans 10 ans, dans 3 mois, ou demain, je reprendrai mon chemin au loin. Comment savoir le jour du départ et de le revoir? Tu seras toujours à mes côtés. Le jour où je m'en irai, et ce jour-là, je le vois déjà, sera un soir comme celui-là, un soir d'été tranquille et très doux, le dernier soir entre nous. Cœur serré, je n'aurai pas peur de tout quitter, car je verrai au fond de tes yeux le reflet des jours heureux. Et si je m'en vais, oublie la peine, oublie les regrets, le jour où je m'en irai.
Merci, Hervé.
Oh, écoute, chanson du petit matin. Voilà, je suis pas le roi du ukulélé, mais voilà, je voulais.
Cette interview est enregistrée un matin.
Voilà.
Voilà. Ça s'appelle comment, ça ?
Cette chanson s'appelle Le jour où je m'en irai. Et en fait, c'est une chanson que j'ai écrite sur une musique qui existait déjà. Voilà, j'ai eu cette idée de quelqu'un qui est là, qui va s'en aller. Où, quand, comment, la question n'est pas là. La question de, c'est la question du départ et des adieux éventuels.
C'est un thème récurrent ou c'est quoi le thème de prédilection de Hervé Gisson ?
Oh, il n'y a pas de thème de prédilection. Le thème de prédilection, c'est la vie. C'est ce qui se passe dans la vie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours essayer de mettre des personnages en scène. Je ne suis pas là pour faire de la rédaction, ni de la dissertation, ni je suis pas là pour aligner des idées. Je raconte une histoire. Et puis chacun se l'approprie ou pas. Voilà, c'est plus intéressant de permettre aux gens d'avoir leur propre interprétation et de pas, surtout pas aligner les idées, quoi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, ce que je regrette quand j'écoute des gens qui écrivent, c'est que bien souvent c'est du propos, c'est du discours. Et pour moi, il n'y a pas d'image et souvent assez peu de poésie.
La poésie ou l'écriture de texte, c'est finalement une photographie qu'on écrit ?
Une photographie qu'on écrit, oui, oui. Enfin, c'est un tableau, c'est une vision qu'on a de quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai écrit une chanson, je voulais faire une chanson sur la mer. La mer qu'on a au Havre ou à Caen. La mer qui est souillée. Et je me suis dit, comment je vais m'en sortir ? Si c'est pour dire c'est dégueulasse, c'est pas beau, c'est pas bien ce qu'on fait, etc. Je me disais, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai écrit une sorte de petit conte que les gamins comprendraient bien, aussi bien avec les gamins et les adultes. Je parlais de la mère qui un soir descend, et puis le lendemain, elle revient plus. Elle s'est cassée, elle s'est barrée, elle en verra le bol. Voilà, plus de mère. Voilà, donc j'ai créé une image poétique d'une mère enfuie à jamais.
Tu parlais de personnes qui écrivent et dont tu écoutes les textes. Je vois un petit peu ta discothèque alignée là sur l'étagère. Quelles sont les personnes qui figurent dans cette discothèque ?
Je pense que il y a Nougaro, il y a Ferré, il y a Digan Garn. Dans les gens plus récents, Alexis HK. Mais bon, je suis assez largué par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. J'écoute très peu de musique. Je ne sais pas pourquoi. Je n'écoute de la musique ou des chanteurs ou autre chose que dans ma bagnole. Voilà, je suis beaucoup dans le silence. J'apprécie d'écouter du jazz, du classique, etc. Je suis assez ouvert à tout ça, mais je suis largué par rapport à ce qui se fait aujourd'hui.
Quelle résonance le rap a pour toi ?
Ah, pas beaucoup. Je pense pas que c'est beaucoup de résonance parce que je m'y suis jamais vraiment penché. Le problème du rap, c'est que ça va vite, qu'il y a beaucoup de mots. Donc il y a un moment, si t'as pas le temps sur un rap de te dire tiens, il y a une image et que si tu veux faire vivre un peu cette image dans ton esprit, et ben ça y est, il y a déjà 160 mots qui sont passés derrière, quoi.
Ouais, je pose la question justement parce que dans le rap, ce qui est forcément évidemment apprécié, c'est la plume, le texte, le vocabulaire, la mise en phrase, etc. Et puis une partie aussi du débit. Et donc tu l'évoques à l'instant, le fait que oui, comme tu dis, il y ait 160 mots de défilé avant qu'on comprenne le premier, celui qu'on vient d'entendre en tout cas, quoi.
Bon, le rap, c'est très très vaste, c'est très 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 large. Je pense qu'il y a des gens qui ont une vraie plume. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu bavards. Mais comme je te l'ai dit, comme je me suis pas penché là-dessus, j'évite d'avoir un avis très
tranché.
Très tranché. Voilà.
Dick Annegarn, c'est un homme un peu de l'ombre aussi, parce que c'est quelqu'un qui vend mine de rien pas mal d'albums, qui a sa carrière qui est ma foi conséquente, et qui à côté de ça n'a pas de résonance en radio, on le voit très très rarement à la télé. Est-ce que c'est un modèle
C'est quelqu'un qui a été mis au plus haut dans les années giscardiennes, on va dire, puisque c'était l'époque. Puis à un moment, il a compris que c'était, il faisait trop de concerts, que c'était, on était en train de lui presser le citron, et il a eu besoin de sortir de la compétition, comme il avait dit, de devenir un chanteur citoyen. Ça a été très mal compris à l'époque. Et de se retirer un petit peu de cette espèce de course au succès qui doit des fois être un peu démente, et de pouvoir retrouver une fraîcheur, je suppose, dans son écriture, d'aller dans d'autres lieux, de vivre autre chose, et tout simplement de vivre sa vie d'humain, de citoyen et de chanteur.
Et je vois aussi, il y a une pochette qui est... C'est peut-être la seule qui est de face. Il y en a deux. Il y en a une de traînée cachée par une photo. Et puis il y a un album de Bachung juste en dessous, qui est lui mis de face. C'est peut-être le seul qu'on voit de face. Quel regard tu portes sur la chanson française en général, puisque c'est quand tu cites Dick Annegarn, Nougaro, Ferré. Là, je vois Bachung, il y a traîné. Donc, c'est très français. Les auteurs, compositeurs, enfin, surtout les auteurs d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens en ce moment qui te touchent, qui te parlent?
Comme je te dis, j'en écoute assez peu. Si je réécoute Charles Trenet, tu te dis oula, d'où ça sort? Bon, c'est le swing, c'est une fraîcheur, c'est le goût des mots, c'est une fantaisie, même si le bonhomme était plutôt, je pense, un peu sombre. C'est des chansons qui durent 2 minutes 30 et ça raconte des histoires et c'est barré. Bachung, c'est autre chose, c'est le versant plus sombre aussi, mais c'est là que je me suis rendu compte que la musique, un peu grâce à Bachung, ouais, que la musique avait vraiment sa place dans la chanson. Une chanson où le texte est 3000 kilomètres devant et où la musique est là avec trois accords un peu mal foutus, parce qu'il faut bien qu'il y ait une musique, avec des mélodies qui n'en sont pas, bon, c'est un peu dommage. Je crois qu'il faut que les paroles soient fortes, faut que la musique soit présente et une couleur et un esprit pour que ça fasse une bonne chanson. Enfin, c'est comme ça que je vois ça.
Est-ce que tu sais, toi, le retour qu'on a sur les textes quand tu vas en concert, quand tu fais un spectacle, etc. Quels sont les retours, justement? Est-ce que tu as un regard assez critique sur la chanson française en général? Il y a des artistes... Là, c'est la personne qui te connaît qui pose la question. Je sais que tu es assez tranché sur certains artistes, d'autres qui ont leur place dans ton cœur. Et à contrario, comment ça se passe en termes de retour en ce qui te concerne?
Alors effectivement, je pense qu'il y a une génération de chanteurs. Bon, des fois, je regarde un peu la télé, ça fait mal hein, quand on écoute certains chanteurs qui ont 50 balais et qui écrivent pour des minettes de 13 ans. Si je suis un peu méchant, je dirais qu'on n'est pas loin de la pédérastie artistique. Hein, je dirais pas de nom, mais avec une pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a des textes, c'est niveau CM1, quoi. C'est niveau CM1. Alors le problème, c'est que bon, les gamins aiment ça, c'est la plus grosse force de vente, faut bien voir. Mais des fois, les parents aiment ça aussi, et ils trouvent ça bien. Bon, s'ils arrivent à se nourrir de ça, ça me consterne un petit peu, mais c'est comme ça. Donc, quant à moi, les retours, y en a, hein, mais ils sont rares. Quand on fait un concert, les gens partent assez vite, ils font un signe de la main pour dire que c'était super. Mais c'est très rare que quelqu'un vienne te dire « Ah, telle chanson, ah, telle chanson, etc. » C'est ces moments de rencontre que moi j'apprécie, mais ils sont pas très fréquents, où les gens peut-être sont un peu intimidés et n'osent pas venir te dire que telle chanson les a particulièrement touchés. Donc assez peu de retours. Mais bon, tu sais qu'il y a des chansons qui font mouche. Voilà, tu le sais, tu le pressens, quand tu les interprètes, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pour ce que je fais, c'est sur toutes les chansons.
Voilà. Alors, on va s'intéresser un peu à Hervé et son entourage. Tu nous parlais des musiciens qui t'entourent, pour Spleen & Co. En l'occurrence. Comment ça se passe, comment il est Hervé avec les copains? Parce que j'ai l'impression que les copains, c'est quelque chose de très très important.
Ça fait partie de mon existence, ouais. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire, mais pas isolé. J'ai toujours mis beaucoup d'importance à l'amitié, à la fidélité en amitié, au partage. Donc comment je suis avec les musiciens, c'était ça ta question?
Ouais, c'est surtout le Hervé et son entourage de potes, parce que je te dis, j'ai l'impression moi que les potes ont leur importance dans la vie d'Hervé.
Oui,
c'est une bonne impression.
L'intérêt de l'amitié, c'est que, à la différence de l'amour, c'est pas tout ou rien. Je m'allume une clope. Hein.
Oui, parce que Hervé fume. Voilà, ce n'est pas bon pour la santé, mais Hervé, il s'en fout.
Je ne mégote pas.
Voilà.
À la différence de l'amour, l'amitié, c'est que c'est choisi. C'est choisi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de choses signées au bas d'une feuille, il n'y a pas de divorce, il y a des séparations des fois parce que on bouge, on change et puis on devient ce qu'on devient. Donc des fois des gens qui sont connus à 20 ans sont connus dans un certain contexte et puis 15 ans plus tard ça ne tient pas la route ou tout d'un coup il y a une vie qui s'organise différemment. Donc tenir ses amitiés, les entretenir, faut être quand il y a une amitié duel, et ben faut être à deux à souffler sur les braises, il faut le zig, il faut le zag, il faut le ping, il faut le pong. Et puis on est dans des zones de, je dirais, de confiance, on est dans des zones de tendresse, on est dans des zones d'attention. Et on n'est pas là pour capter l'autre, on n'est pas là pour l'emprisonner, on n'est pas là pour qu'il nous satisfasse, comme dans l'amour, on est dans l'exigence, bien souvent, à mon avis, et on se trompe, alors on peut être aussi dans l'exigence avec l'amitié, comme les exigences qu'on pose soi-même, parce qu'on y apporte de l'importance. Donc plus de liberté là-dedans, plus de fantaisie, moins de lourdeur, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Enfin, en tout cas, l'engagement, il est tacite, on est amis, on souhaite que ça dure. Mais bon, les choses bougent, les choses évoluent, et moi j'ai connu de belles amitiés qui se sont terminées. On a des chagrins d'amitié comme on a des chagrins d'amour. Mais bon, voilà... On peut rencontrer des gens à tout moment, à tout âge. J'ai la chance d'être entouré d'avoir affaire à des gens qui sont, je pourrais, une certaine partie de ces personnes-là, je pourrais être leur père, mais je suis pas leur père P-E, accent grave R-E, je suis leur père P-A-I-R, et on s'apporte des choses mutuellement dans la liberté, et sans contrainte.
Spleen l'Ancien est-il philosophe?
C'est la poule qui est philosophe. Je sais pas si je suis philosophe, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense que j'ai un regard sur le monde. Peut-être, mais ça c'est les autres qui le diraient. C'est justement l'entourage. Peut-être que j'ai des amis plus jeunes, peut-être que le regard que j'ai sur l'existence a un côté philosophe. C'est vrai que j'ai l'impression que les gens me voient un petit peu comme un sage, des fois, alors que je suis tout sauf sage. Qu'il me voit comme quelqu'un d'assez posé, d'assez tranquille, alors que je suis tout sauf posé et tranquille. Peut-être que j'ai un certain recul, une façon de dire les choses, avec tantôt de l'humour, tantôt une forme de fatalisme ou de désespoir, j'en sais rien. Donc philosophe, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses?
Oh là, alors, n'inversons pas les rôles. Je vois que tu as préparé un petit peu des petites choses sur la table. Qu'est-ce que tu m'as sorti?
J'ai sorti quelques textes comme ça, un petit peu en vrac. Qu'est-ce que j'ai envie de te lire?
Ce que tu veux.
Tu parlais de philosophe.
Oui. Hein.
On va parler d'âme.
Allons-y.
Ouais. T'as une âme, toi? Ah ouais, c'est bien. Elle te sert? Tu la portes souvent? Tout le temps? Ah ouais? Tu la laisses jamais chez toi? Bon. Elle est garantie à vie. Oh, c'était pas une fin de série. et t'as pris toutes tes options. Ça a dû te coûter bonbon. Non, je m'intéresse, c'est tout, je m'informe, je me pose encore des questions. Est-ce que ça vaut le coup d'en avoir une? Est-ce que ça reste intéressant sur la durée ou un peu pénible à la longue? Est-ce que ça plombe? Est-ce que ça encombre un peu, des fois? Ah non. Non, moi j'ai jamais eu les moyens de m'en acheter une. Ou alors ça aurait été du bas de gamme, une occasion à deux balles achetée en loose dé sous le manteau du côté de Saint-Ouen. Ou alors celle que j'ai essayée, il n'y avait jamais la bonne taille. En fait, j'avoue, môme, je me disais, il m'en faut une absolument. Ah oui, comme tout le monde. Et puis, au fil du temps, ça m'a plus tellement fait rêver, un peu, mais sans plus. Je voyais pas l'intérêt. Et maintenant, une âme, je vois ça un peu comme un bibelot sur une étagère. Si tu fais pas gaffe, ça s'encrasse, ça prend la poussière. Et tu vois même plus qu'elle est là. Ben oui, on s'habitue, c'est ça. Ouais, bravo, c'est une sacrée responsabilité d'avoir une âme, c'est beau. Mais faut tout le temps la choyer, la chouchouter, l'entretenir, et si t'as pas de plumeau, hein. Bref, tu lui dois des comptes, au fond, ça t'oblige. Et moi, ça me fait penser à une fable de La Fontaine, le loup et le chien. Le chien mange bien, mais porte un collier. Le loup bouffe rien, et vit en liberté. Et moi, sur ce coup-là, je me sentirais plutôt loup. Je préfère voyager en solo et léger. Parce qu'une âme, ça bavarde. Faut que ça existe. Alors ça cause de ci, de ça, de tout. Et tu peux plus rêver, peinard. Non. J'empêche personne d'en avoir une. Total respect. Ces trucs-là, c'est perso. Moi, j'en ai pas. C'est comme ça. Ça me manque pas. Je vis ça tranquille. Franchement, aucun état d'âme.
Une relation particulière avec la mort, parce que connaissant, pour ma part, les textes que tu écris et ayant écumé un petit peu les textes, enfin tes textes en général, c'est un thème qui revient souvent.
Non.
Non ?
Non, je crois que j'ai dû écrire à la louche un millier de textes. Alors,
excusez-moi, chers auditeurs, ouais. Je me suis complètement trompé.
Non, mais tu connais une chanson qui s'appelle La mort. La mort n'a pas de bas de soie, de porte-jartelle, couleur sang, mais comme chacun au fond de soi, des rêves enfants innocents, etc.
Mais il y a eu un texte aussi long où tu casses la gueule carrément à la mort.
Voilà, ou... ça a été mon gros travail du printemps et de l'été. J'ai écrit un texte en octosyllabes. Très très long, quand je le dis, il dure 8 minutes et demie. Faut tenir la longueur, puis surtout faut se le mettre en mémoire. Bon, il y avait des circonstances autour de ça, le décès d'une personne proche. Et puis ouais, j'ai envie de il y a la mort qui rend visite à la voisine et je lui rentre dans l'art, quoi. Je lui dis viens pas traîner par ici, sinon ça va mal se passer pour toi, quoi. Voilà, donc c'est un texte qui m'a demandé beaucoup de travail. Le défi, c'est de réussir à le dire et à l'incarner sans me planter. Mais c'est pas un sujet que je traite beaucoup, même si j'y pense quotidiennement. Même quand on prend de l'âge, l'idée de la mort est plus présente, mais assez peu. Non, je crois pas.
La manière dont est écrit le texte que tu viens de lire, on a l'impression que c'est un prémisse de sketch ou enfin c'est lu comme si c'était une personne toute seule sur scène qui faisait un sketch.
Ben on peut dire que c'est le travail qui m'attend. Hein. J'ai envie de me lancer dans le stand-up. Hein, le stand-up, enfin c'est pas vraiment du stand-up, mais disons que j'ai une douzaine de textes comme ça qui sont des textes que je peux interpréter seul, sans musique. C'est une autre dynamique, c'est une autre discipline, c'est un autre travail. C'est être un poil sur scène et puis essayer d'emporter les gens. J'aime bien mettre des personnages en scène, donc là c'est un mec, il a pas d'âme. Bon, moi j'ai pas d'âme et puis c'est très très bien parce que ça... C'est un petit peu lourdin comme truc, hein, je pense que...
On l'a bien senti. Hein.
Ouais. Non, j'ai pas d'âme, je vais pas m'encombrer, faut voyager léger. Voilà, j'ai d'autres sujets, t'en veux un autre?
Allez.
J'en ai un autre.
Ça y est, on l'a chauffé, il est parti.
Ouais. Alors attends, on va essayer ça. La pluie fait des Flaquette. Et je repense à elle. Elle, elle m'en a fait voir de toutes les couleuvres. Personnellement, j'étais déstabilisé. C'était le style de femme qui déformait tout. Elle passait sans arrêt du Coca Light, tout se barrait en sucrète et on n'a jamais réussi à être sur la même longueur d'ombre. Elle parlait de poésie. Tu sais, le poète Louis Aragorn. Ou Stendhal, c'est bien lui qui a écrit En rouge et noir. Oh, tiens, je l'entends encore. Chouchou, sur la liste, tu peux rajouter Savon de Marcel? Ou cette fois, où elle s'était énervée pour une histoire d'argent. Elle était sortie de ses gongs. Oh, mais tu me fatigues avec tes contes d'Apollinaire. Elle me déformait tout, mais je me cache pas derrière mon petit moi, je sais que j'étais pas toujours très gentil. Je me moquais de son orthographe, de sa ponctuation. Elle protestait. Oh, mais je le sais bien que j'ai des problèmes de prononciation. Tout le monde a des lagunes. Et pas un poil d'humour avec ça. Un soir, pour rire, je lui dis, le jour où tu m'arriveras à la cheville, tu pourras t'occuper de mes lacets. Eh ben, elle l'a mal pris. Ben oui, c'était ridicule de sa part, parce qu'elle le savait très bien. Je ne mets jamais de lacets. Elle et moi, l'un dans l'autre, on ne se quittait pas d'une semaine. Et à force de se regarder dans le blanc des œufs, de passer des nuits de papier gâché, ça a commencé à se barrer en ouille. On a essayé de mettre la pédale d'ours, d'arrondir les ongles, mais au fil de l'étang, on a fini par se noyer à petit feu. Et comme on était plutôt des gens tombés dans la célébrité, tout le monde en a vite fait ses choux graves. La calomnie s'est répandue comme une traînée de poulpe. Des fois, c'est étrange. J'ai l'impression qu'elle a dépeint sur moi. Par exemple, l'autre jour, avec mon pote Richard, on parlait de l'affaire Dreyfus, de J'accuse. Au bout de 2 minutes, il m'interrompt. Hey, vieux, le type qui a écrit J'accuse, c'est pas Émile Zorba? Ouais, je repense à elle, au soleil touchant, auprès d'Ursule, où la pluie fait des flaquettes, et je me rappelle comme elle était contente au début que j'écrive de la poésie. Elle disait à ses amis, « Ah oui, il écrit, il est poète à 16 heures, enfin, par là. » Et ce soir, assez tard, et demi, j'ai le sentiment que j'ai peut-être été trop laxatif dans mon attitude. En tout cas, la vérité dépasse l'affliction. Ça a été divorce, avocat, et au tribunal de grande instance, j'ai été dégoûté de ma plainte. En conclusion, je serai circoncis. Amour, justice, c'est terrain biné depuis l'homme préhistorique. Ah, je suis pas toute première jeunisse, mais ça m'avait échappé, faut croire. Mais là, merci, ça va, j'ai compris. Et j'interdis à King Kong de penser le contraire.
Le jeu de mots a une importance...
Je ne sais pas si c'est le jeu de mots ou le jeu avec les mots.
Le jeu avec les mots, oui. C'est quelque chose, c'est vraiment un exercice de style qui, dans lequel tu te complais, j'ai l'impression.
J'essaie de pas m'y complaire, parce que le danger, c'est d'en mettre partout. Mais il y en a qui sont beaux. J'ai légué mon corps à l'absence. Mmh. Hein, des choses comme ça. Faut que ce soit des choses à tiroir. C'est amusant. Les gens aiment ça. Moi, j'aime ça aussi. À un moment, c'était un peu systématique. Il y a des textes qui s'y prêtent, et puis il y a des textes qui s'y prêtent pas. Voilà.
Et ça permet une double lecture en filigrane de quelque chose de plus grave derrière, parfois.
Éventuellement. Là, bon, par exemple, là, il y a un personnage, il déplore que son ex-nana déformait tout, mais lui, il est devenu pareil, quoi. Voilà. Donc ça, bon, c'est amusant, c'est tout ça. C'est juste pour de rire.
Donc, on évoquait tout à l'heure, le travail futur, Showcase, cette émission se veut un peu intemporelle, mais voilà, ça c'est la dernière mue d'Hervé Gissot.
Je ne sais pas si c'est la dernière mue, j'écris aussi des nouvelles.
Parlais du stand-up, hein, le fait de partir d'une formation musicale pour partir vers quelque chose de plus solo.
C'est un peu les circonstances qui font ça, puis des textes que j'ai écrits, à un moment je m'aperçois que j'ai une douzaine ou une quinzaine de textes que je peux mettre en scène seul, c'est un peu se mouiller, c'est un peu prendre des risques, et puis d'essayer de passer la rampe, et puis d'aller vers la déconnade, et se permettre de dire des choses. Je pense à un texte que j'ai là, qui parle des vaches et des hommes, voilà, je pense qu'il est assez flûté ou assez futé, parce que bon, j'essaie de rendre hommage aux vaches et de dire que bah, en comparaison, on n'est pas gagnant. Voilà, donc il y a aussi des trucs où j'essaie de frotter un peu, quoi. Voilà, je n'ai pas forcément toujours une estime extrême des auditoires. Il faut mettre l'abreuvoir à hauteur des bêtes, comme je dis. Voilà, l'envie de provoquer. Je pense que quand on fait quelque chose d'artistique, un des moteurs, ça doit être de déranger l'ordre établi. Voilà, pour m'amuser, comme je dis, d'abord, voilà.
Anarchiste ?
Un artiste. Ouais, un petit peu. Je pense que quand j'avais 20 ans, j'étais gauchiste. Hein, donc refus de cet ordre établi, refus des banquiers, refus de la cellule familiale oppressante et oppressive. Je sais pas si on dit comme ça.
Punk.
Bon, j'en sais rien, ça, peut-être, j'en sais rien. Il y a plein de choses. Tu sais, je me pose pas trop la question de ce que je suis. C'est plutôt les gens qui peuvent avoir se dire ça quand ils me présentent. Ils disent Hervé Gisseau, poète. Bon, bah, je dis bah, si les gens veulent que je sois un poète, je veux bien être un poète.
Si on résume, donc carrière musicale dans la majorité, un peu de slam, mais toujours avec. En ligne de mire, l'importance du texte, l'importance du je dirais du poids des mots, mais
le poids des mots, leur résonance. Je pense que au fil du temps, j'ai appris vraiment à respecter les mots, à les faire sonner. Je crois que c'est très important. Il y a une histoire de rythme dans le chant des mots, dans la langue française comme dans n'importe quelle langue, et qu'il faut s'atteler à ce travail-là. Que sans ces sons s'associent sans cesse. Oui, un respect par rapport aux mots. J'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps qui est un peu saignant, où j'évoque quelqu'un qui pourrait être moi, qui a pris les mots comme ça, qui les a cueillis, puis vachement content de lui, etc. Sans égard, sans bienveillance vis-à-vis des mots, je fais des mots des personnages ou des êtres vivants. Je pense que des fois on prend les mots, on est vachement content, qu'est-ce que c'est beau ce que j'ai fait. Et voilà, c'était l'idée que les mots doivent se respecter. Ouais, c'est un peu... Mais bon, c'est un bon texte.
Respectons-les aussi,
ouais.
Ils sont nos amis.
Ouais.
Eh bien, c'est sur ça qu'on va conclure. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus chez toi, nous avoir ouvert ta porte. On te souhaite bien évidemment une excellente continuation dans l'ensemble de tes projets.
On va essayer. On est toujours dans l'essayage, on est toujours dans éternel débutant.
Merci encore, bonne continuation.
Merci.